de Libye. La France veut vous dire son amitié et son soutien. La France, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen.
15 septembre 2011, à Benghazi, en Libye, Nicolas Sarkozy, accompagné par le Premier ministre britannique David Cameron, prennent un petit bain de foule, la foule qui va scander le nom de Sarkozy. Bonjour Vincent Hugeux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes journaliste, l'un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique. Vous avez travaillé pendant 30 ans au service Monde de l'Express. Vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages, notamment Afrique, le mirage démocratique, l'Afrique en face, mais aussi, et c'est pour cette raison qu'on vous invite cet après-midi, une biographie passionnante de l'ancien dictateur libyen, tout simplement intitulée Kadhafi. C'est aux éditions Perrin. Vincent, c'était quoi déjà la particularité de Kadhafi parmi l'ensemble des dirigeants qu'a connu le continent africain? Il est très singulier.
Parfaitement unique, il se veut en quelque sorte l'héritier du panarabisme qu'incarnait l'Égyptien Gamal Abdel Nasser. Et il a toujours considéré au fond qu'il était à l'étroit dans son bac à sable national libyen. C'est-à-dire que ses visions sont planétaires, et d'ailleurs il suffit de lire, c'est une épreuve dont je dispense nos auditeurs, son fameux livre vert, pour mesurer à quel point il estime avoir des réponses à tout. Je vous donne juste deux exemples. À un moment donné, il y a le conflit social chez Renault en France. Il est de passage à Paris et il explique que si la France avait adopté les principes de la Jamahiriya, c'est-à-dire la République arabe libyenne socialiste et populaire, ce conflit social serait instantanément résolu. Ça, c'est juste un exemple. Mais deuxième exemple, lui a réponse à tous les conflits mondiaux. Par exemple, le conflit proche-oriental, il suffit de créer l'Isratine, donc néologisme fondé sur Israël et Palestine, et le tour est joué. Et vous avez un autre passage absolument ébouriffant de sa littérature à propos du conflit du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Eh bien, il a une formule magique. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt? Le Cachemire et le Cachemire, l'Inde et l'Inde, le Pakistan et le Pakistan.
Tout est résumé, tout est simple avec Kadhafi. Il nous manque, quelque part. Il était tyrannique, irascible, il aimait s'entourer de femmes, il était aussi cruel. Le parallèle avec notre rédacteur en chef, Cyril Descarrières, est troublant. Et pourtant, pensez-vous que la trajectoire funeste et la fin violente de Muammar Kadhafi aient incité Cyril à mettre de l'eau dans son vin? Absolument pas, car il y a des hommes comme ça qui s'accrochent au pouvoir jusqu'au bout. Zoom Zoom Back spécial 2011, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, Zoom Zoom Zen en mode rétro. Le vendredi, ça s'appelle Zoom Zoom Back. On prend une année marquante de l'histoire et on s'y replonge en compagnie d'un spécialiste. Aujourd'hui, direction 2011, époque bénie à laquelle j'avais encore sur le sommet du crâne une belle crinière en lieu et place de ce champ de ruines. Cette année-là, on dansait sur I Follow Rivers, Like Lee, explosé. Oussama Ben Laden, quoique différemment, explosé lui aussi, dans une planque au Pakistan, visiblement pas suffisamment bien planqué. En 2011, les romantiques écrasaient une larme en écoutant.
J'ai pleuré.
Adèle, évidemment. Les pervers masochistes, eux, se délectaient de la reprise de M. Pokora, d'un des plus grands tubes de la personnalité préférée des Français.
Waouh.
Oui. 2011, l'année aussi du retour de Je t'aime à mourir.
Je n'étais rien des voilà.
Shakira, oui.
J'allais vous faire un petit quiz, mais vous avez été meilleur que sur le quiz, finalement. Et oui, on l'écoute. Magnifique Shakira, inoubliable Shakira. Vous imitez aussi mal Shakira que Vianney. On aurait dit du Vianney là.
Ah bon,
un petit peu ça. Shakira qui donnait un second souffle à ce bijou de Francis Cabrel qu'on attend toujours, je le rappelle, dans Zoom Zoom Zen.
Mathieu Noël.
Alors Vincent Hugeux, on va évidemment évoquer ensemble la chute de Kadhafi et j'ai l'impression, pour vous, ça a plus marqué 2011 que la reprise de Je l'aime à mourir par Shakira. Juste le temps de vous présenter mes troupes. À commencer par ma garde rapprochée. Comme Muammar, j'y prends grand soin. Ouais. Manon Mariani, chaque vendredi, vous nous racontez une première fois.
En 2011, des étudiants ont créé un réseau social alors qu'ils étaient encore sur les bancs de la fac. Ça vous rappelle une histoire? Et oui, 7 ans après la création de Facebook par Mark Zuckerberg, c'est Evan Spiegel et ses potes qui fondent Snapchat. C'est la première fois de 2011.
Le vendredi, on le sait, c'est relâche pour Quentin Lui, qui se contente de passer commande aux archivistes de l'INA. Alors vous me mettrez une dizaine d'extraits de trucs un peu marquants qui sont passés en 2011 et puis moi en contrepartie je citerai vos noms à l'antenne. Ça marche les filles? Étonnamment, la conscience professionnelle des employés de l'INA fait que ça marche.
Alors, mon
je
binôme,
l'imagine trop faire
mon
ça.
Binôme,
je suis sûr, sûr que c'est comme ça que ça
mais
se
non,
passe.
Mais non, j'ai plein de montages à faire. Bref, oui. Elle s'appelle Samia Jedi. Et effectivement, elle nous aide à obtenir des extraits de qualité pour nous replonger dans cette folle année. DSK, Fukushima, ah oui. Obama, oui. Un triple A. Oui, on l'a encore cette année-là.
Ah, on l'avait encore le triple A. Vers moins le quart, Thomas Croisière ayant préféré se consacrer au cinéma d'auteur en 2025, nous vous présenterons une nouvelle membre de l'équipe qui, elle, reviendra sur 2011 en musique. Camille Diao devient une zoom-zoomeuse. Puisque oui, c'est comme ça qu'on dit maintenant. En fin d'émission, lui, il n'a pas bougé, il n'a pas trouvé mieux. Charles Nouveau nous rejoindra pour ponctuer cette émission de son panache humoristique. Mais d'abord, retour en Libye, car 2011, c'est avant tout la chute de Kadhafi. On y vient avec l'un des meilleurs connaisseurs de la région, le journaliste Vincent Hugeux. Vincent, au début du livre que vous consacrez au leader libyen, il y a cette phrase énigmatique. Vous dites « Vivant, il était une énigme. Mort, il demeure un mystère. » C'est même pour vous ?
Oui, parce qu'il a emporté dans sa tombe, dont au passage on ignore la localisation exacte, vraisemblablement dans un désert quelque part, pour éviter évidemment des pèlerinages, des cadofaux nostalgiques, il a effectivement une part d'énigme qui est à mon sens irrésolue. Sur le personnage, sur son tempérament, j'ai recueilli beaucoup de témoignages qui recoupent d'ailleurs le portrait qu'on en brosse généralement, mais ce qui est le plus singulier, c'est malgré tout sa plasticité politique. C'est-à-dire que, vous savez, on entend tout le temps, depuis Caligula, les dictateurs sont des fous. S'ils n'étaient que déments, ils ne se maintiendraient pas 42 ans à la barre du rafio libyen et de ses alchimies tribales complexes, de son histoire tourmentée, etc. Donc, je n'ai jamais considéré que l'argument de la folie était recevable. Donc, on essaye de percer les autres ressorts du personnage. Et il y en a un, et je m'en tiendrai là à ce stade, c'est sa bédouinité. Profondément, Kadhafi est un bédouin, c'est-à-dire... la raison pour laquelle il a toujours planté sa tente, alors fort confortable au demeurant, que ce soit à Bruxelles, à Rome ou dans les jardins de Marigny à deux pas de l'Élysée en 2007. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui, sans faire de la psychanalyse à trois dinars, a très vite eu le sentiment qu'il était un déclassé, qu'il avait une revanche sociale à prendre. Parce que quand il arrive à Sirte dans son école, lui, le brillant autodidacte, eh bien, il sent tout le mépris de l'élite sociale de cette ville portuaire, son accent, sa façon de se vêtir, etc. Et donc, d'emblée, c'est quelqu'un qui a une immense revanche à prendre, d'abord contre le vieux roi Idriss, à bout de souffle, exténué, et en plus inféodé aux puissances britanniques et américaines. Bon. Mais c'est aussi une revanche sur sa propre destinée. Il naît, selon sa légende, mais qui est en partie vérifiée d'ailleurs, dans une guitoune en peau de chèvre, à une trentaine de kilomètres au sud de Sirte.
Vincent, je vous avais rencontré Kadhafi ?
Je l'ai croisé plusieurs fois. Je n'ai pas eu le privilège du tête-à-tête dans la tente de Bab al-Azizia, son fortin tripolitain. Mais je l'ai croisé effectivement en Libye et également donc à Tripoli, mais à Sirte, puisqu'il avait fait de son fief natal l'endroit qui devait, à son sens en tout cas, être en quelque sorte le cœur battant de l'Afrique de demain. En construisant, par exemple, un centre de conférences absolument éblouissant, de luxe et de volupté. Et donc, oui, je l'ai vu à l'œuvre.
Il vous a impressionné ? C'est quelqu'un qui vous a impressionné ?
Un charisme. Alors, je dirais que le mot qui convient le mieux, c'est intrigué, plus qu'impressionné. Parce qu'il y avait des foucades, des tocades, des lubies qui étaient parfois franchement risibles. Je me suis tapé, c'est la loi du sport, à peu près tous ses discours, toutes ses interviews, etc. Et il y a vraiment des moments où vous vous pincez.
À découvrir dans votre livre, Vincent Hugeux, Kadhafi aux éditions Perrin. Et on se retrouve juste après une petite pause musicale avec un titre de 2011, évidemment, The Last Shadow Puppets, My Mistake Was Made For You. Such a lies, an earthquake I know. My mistakes were made for you. And in the back room of a bad dream, she came and whisked me away and confused. And if she's solid as a rock rolling down a hill, the fact is that it probably will hit something on the hazardous terrain. And we're just following the flood round and in. Before we're smashed to smithereens like they were, and we scramble from the plane, and it's the fame that put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing
expected now forever the shame. She came to escape his forgot. And it's a lot to ask her not to sting. Give her less than everything. Around your crooked conscience she will.
Zoom Zoom Back continue direction 2011. Aujourd'hui, la chute de Muammar Kadhafi. On en parle avec un fin connaisseur de l'ancien régime libyen, le journaliste Vincent Hugeux. Vincent, on parlait de la visite controversée de Kadhafi à Paris en 2007, quand il a planté sa tente donc à l'hôtel Marigny. Il faut remettre un peu dans le contexte, parce que ça commence à faire un petit peu loin cette histoire. Pourquoi Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a invité Kadhafi en grande pompe en France? Qu'est-ce qui justifiait ça?
Alors, c'est le match retour. Sarkozy est élu. Et son voyage initiatique en Afrique est assorti d'une escale imprévue à Tripoli. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy et son épouse Cécilia sont avides de rafler les lauriers de la libération de 5 infirmières bulgares et d'un médecin palestinien qui sont détenus d'une manière abjecte dans les geôles du régime de Kadhafi, ayant été évidemment absurdement accusés d'avoir inoculé sciemment le virus du sida à 450 enfants d'un centre pédiatrique de Benghazi, la grande ville de l'Est libyen. Et donc, pour prix, en quelque sorte, de cette libération, Nicolas Sarkozy consent à faire escale à Tripoli, mais dans les conditions qui sont posées par le guide déboussolé, Kadhafi, eh bien, il y a une visite XXL à Paris. Et d'ailleurs, Sarkozy le dira à l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, à ce moment-là, il m'a tout fait. C'est-à-dire que ça se transforme en un cauchemar protocolaire qui dure d'abord 5 jours. Initialement, ça devait être 72 heures. En réalité, Kadhafi est ravi. Et donc, on privatise quasiment la Seine pour une croisière privée en bateau-mouche. On lui ouvre le Louvre, on lui ouvre Versailles. Et l'épisode... Alors,
mais on ne peut pas dire non.
Non, pourquoi? Parce qu'on a des choses à lui demander. On va signer pour 10 milliards d'euros de contrats.
Des choses à lui vendre.
Des rafales, des hélicoptères Tigre, des réacteurs nucléaires civils de dessalement de mer, etc. Donc, contraint et forcé, on cède à quasiment tous ses caprices. Il y en a 3 où il n'obtiendra pas satisfaction. Il voulait les s'incliner devant la tombe de Général de Gaulle à Colombey les deux églises. Ça ne se fera pas. Il voulait s'exprimer au Palais Bourbon. Idem, et il voulait également rencontrer, dans son côté basiste, des ouvriers de chez Renault, et ça ne se fera pas non plus. Mais c'est un vrai cauchemar, et alors juste, je termine sur l'épisode qui est sans doute le plus cocasse, c'est une chasse aux faisans d'élevage, qu'on lâche pour l'occasion dans la forêt de Rambouillet, et j'ai appris par des témoins que, en fait, ce grand guerrier était un piètre tireur.
En plus, il était nul. Manon.
Après la libération des infirmières bulgares, Nicolas Sarkozy disait de Kadhafi qu'il se respectabilisait. C'était vraiment le cas ?
Non, mais ça, c'est évidemment la grande thématique. C'est de dire qu'au fond, Kadhafi avait traversé l'axe du mal pour se retrouver sur la bonne rive. Et c'est vrai qu'il avait donné des gages. Et en l'occurrence, la lutte contre le djihadisme, on évoquait Ben Laden tout à l'heure, il s'est souvent vanté, et à bon droit, d'être le premier à avoir demandé l'émission d'un mandat d'arrêt international, puisqu'il y avait lui-même des maquis djihadistes qu'il devait écraser. Ce qu'il a fait d'ailleurs au napalm au besoin. Et puis, il y avait le deuxième gage, c'était le renoncement à son arsenal nucléaire, bactériologique et chimique, qui est amplement gonflé pour donner du prix à son renoncement, mais qui de fait existait, puisqu'il était passé par la filière du fameux Abdul Sadiq Khan, vous savez, ce Pakistanais qui a été en fait le proliférateur numéro un de l'arme nucléaire dans le monde entier, que ce soit en Iran, en Libye ou ailleurs. Et donc, il avait donné des gages. Et puis, il y avait aussi cette espérance de ces contrats mirifiques, parce que la Libye est riche, même si beaucoup de Libyens vivent dans une misère infâme. Libye est riche, parce qu'elle a un pétrole de très grande qualité, et donc elle a une capacité de financement absolument colossale. paradoxal. C'est pas un hasard si Kadhafi va acheter, par exemple, une partie de Fiat, ce qui lui permet, par exemple, de devenir actionnaire de la Juventus de Turin à un moment de sa vie.
2011, c'était la chute de Kadhafi, mais c'est aussi plein d'autres actus cette année-là. Elles sont toutes dans les archives de l'INA, où Quentin aime à se balader le vendredi. Complètement aux archives, Quentin.
Le 15 mai 2011, BFM est en édition spéciale. Une affaire va scotcher la France à son réveil.
Bienvenue si vous nous rejoignez, édition spéciale depuis 7h ce matin, pour ce qui constitue un véritable coup de tonnerre pour la classe politique française et pour la gauche. Dominique Strauss-Kahn a donc été inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol sur une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York.
Les images font le tour du monde, DSK menotté, DSK filmé au tribunal, agression sexuelle, tentative de viol sur l'employé du Sofitel Nafis Atou Diallo qui porte plainte. 3 mois plus tard, le procureur demande finalement l'abandon des charges pénales. Il invoque des incohérences dans les témoignages de l'accusatrice, ce qui conduit à la levée des poursuites. Nafis Atou Diallo va quand même engager une procédure civile contre l'ancien directeur du FMI. En décembre 2012, les deux parties concluent un accord financier mettant un terme à l'affaire. À son retour à Paris, en septembre 2011, Dominique Strauss-Kahn avait pris la parole aux 20h de Claire Chazal, c'était sur TF1.
Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, de mes enfants, de mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français, qui avaient placé en moi leur espérance de changement. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Le 11 mars 2011, au large de la côte nord-est du Japon, un séisme de magnitude 9, le plus puissant jamais enregistré sur place, provoque un tsunami. Une vague de 40 mètres, ce sont les images de fin du monde quand elles touchent les côtes.
Mais les inquiétudes se concentrent ce soir autour d'une centrale nucléaire située dans la région de Fukushima.
Alors, Laurent Delahousse avait pas encore bien saisi comment le prononcer, mais c'est cette centrale nucléaire de Fukushima qui a fait frémir le monde entier. Les vagues inondent les installations, l'électricité est coupée et avec elle, les systèmes de refroidissement, fusion du cœur de 3 réacteurs qui entraînent les explosions, des rejets radioactifs dans l'air, dans l'eau, le sol. 160 000 personnes sont évacuées en raison des risques de radiation. Aujourd'hui encore, la zone est toujours en décontamination. Bilan du séisme et du tsunami, 18 000 morts ou disparus. Le 2 mai, Barack Obama prend la parole en direct depuis la Maison Blanche.
Ce soir, j'annonce au peuple américain et au monde que les États-Unis ont conduit l'opération qui a tué Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, et le terroriste responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents.
La fin d'une traque qui aura duré près de 10 ans. Oussama Ben Laden était la personne la plus recherchée dans le monde par les États-Unis depuis les attentats de septembre 2001. Changement d'ambiance, le 29 avril 2011, les yeux sont rivés sur Londres pour le mariage du prince William et de Kate Middleton.
Premier temps fort de la matinée, salué par les cloches de l'abbaye, l'arrivée du prince William en rouge et de son frère et témoin, le prince Harry. Comme il se doit, la reine Elisabeth II, 85 ans, fut accueillie dans l'abbaye par les glorieuses trompettes de ses régiments. Quant à la mariée, sa splendide robe, que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros. 2 milliards de téléspectateurs qui, au travers le monde, regardent la cérémonie.
La même année, l'Angleterre perd une voix magnifique. Amy Winehouse, qui luttait contre des problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues depuis plusieurs années, rejoint le club des 27. Elle est retrouvée chez elle sans vie le 23 juillet. En 2011, le monde perd aussi Steve Jobs, André Chédid et Elisabeth Taylor. À partir de septembre en France, on se passionne pour la Coupe du Monde de rugby qui a lieu à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, terre sacrée de ce sport. La France arrive en finale pour affronter l'équipe nationale, les All Blacks. Nous sommes le 23 octobre.
Avec ce haka.
Le match des Bleus est magnifique. Après un essai des Blacks, la France remonte au score à un petit point. Les Bleus mettent la pression jusqu'au bout, mais ça ne va pas suffire.
Ah, ça va se terminer comme ça. Horrible pour les Français cette fin de match. Et voilà, c'est fini, 8-7, score final.
8-7, mais quelle finale. Voilà comment, sur une nostalgie sportive, on referme ce complètement aux archives.
Merci. Merci. J'ai dit trois fois merci parce que je ne savais plus que ce jingle était si long finalement.
Oui, c'est
le jingle
vrai.
De fin. De...
Vous avez comblé.
Ah, j'ai comblé comme j'ai pu. Merci Quentin. Vincent Hugeux, la mort de Ben Laden cette année-là, en 2011 aussi, s'en est passé des choses. J'imagine que vous avez suivi ça de près aussi. Il y a eu des spéculations sur les conditions exactes dans lesquelles il a été éliminé. Et est-ce qu'on sait, côté Kadhafi, exactement ce qui s'est passé? Parce qu'on se souvient d'images terribles où il est presque lynché par la foule. Comment il est mort exactement, Kadhafi?
Alors, à ma connaissance, et sous bénéfice d'inventaire, il tente une sortie. C'est-à-dire qu'il est en fait reclus dans sa ville fief de Sirte. Mmh. Et en fait, l'espace est peau de chagrin. C'est-à-dire qu'entre les frappes de missiles des rebelles libyens et les raids aériens des forces de l'OTAN, cautionné d'ailleurs à l'arrache par une résolution onusienne, la 1973, eh bien, il sent bien que son salut, si salut il y a, ne peut être que dans la fuite.
Oui.
Et donc, il y a une colonne de véhicules qui s'assemble, une quarantaine de 4x4. Ils sont frappés une première fois par un drone Predator américain, puis par deux bombes larguées par un Mirage français. Donc, le convoi, en quelque sorte, éclate. Et lui va se réfugier dans une villa en chantier, où, là encore, il est rattrapé par des brigades venues de Misrata. Misrata est une ville côtière qui avait subi un calvaire insupportable pendant la tentative de riposte militaire de l'armée libyenne après le soulèvement de 2011. Et donc, il va finir dans une canalisation, ce qui m'a fait dire un peu ironiquement que l'aigle a fini dans une buse, ce qui est factuellement exact, mais comme il aimait se comparer dans l'imagerie à un rapace. Et donc, il va être là sorti allé par le col de la veste par un brave type qui s'appelle Omran Chaban, mais qui va mourir parce qu'il va être torturé par des pro-kadhafistes, et il va d'ailleurs périr dans un hôpital parisien où il a été transféré en 2012. Et là, il y a un gros point d'interrogation, parce que quand vous examinez toutes les vidéos peu saccadées, hachées, qui sont prises au téléphone portable, que vous essayez de les filer de manière à avoir un continuum, il y a un moment de mystère. C'est-à-dire qu'il est saoulé de coups. Je passe sur certains sévices, éloigner les enfants du poste, etc. Et ce que l'on ignore, c'est à quel moment il rend l'âme, pourvu qu'il en eût une. C'est-à-dire que, est-ce que quand on jette ce corps sur l'arrière d'un bus qu'on emmène à Misrata, il est déjà mort, est-ce qu'il meurt? En revanche, qu'on sait, c'est parce qu'on va retrouver une trace de balle, c'est qu'il est exposé dans une sorte de chambre froide d'un marché de gros à viande à Misrata, pardonnez-moi, et donc c'est un lieu de visite familiale. Les gens défilent pendant 2 à 3 jours pour voir le cadavre de Kadhafi, d'un général qui l'accompagnait et dont son fils Moatassem, qui est le seul à avoir été loyal jusqu'au bout à son égard.
L'actualité de ce début janvier 2025, c'est évidemment le procès de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on connaît, sans entrer dans les méandres de ce dossier, est-ce qu'on connaît les liens, les vrais liens entre Kadhafi et Sarkozy avant que Sarkozy ne devienne président?
Alors, tout commence, à ma connaissance, en 2005. À l'époque, Nicolas Sarkozy a déjà des ambitions élyséennes, c'est parfaitement clair. Ensuite, tout ça s'accroît en 2006 avec des visites, notamment une visite sous la tente, donc à Bab al-Azizia, de Nicolas Sarkozy et de son entourage, et surtout des échanges permanents entre, je dirais, l'entourage sécuritaire et renseignement de la Jamaïria libyenne, donc de Kadhafi, et de l'autre côté, le premier cercle de Sarkozy. On retrouve un Claude Guéant, un Brice Hortefeux, etc., etc.
Tous ceux qui défilent aujourd'hui dans la justice.
Et à l'époque, si vous voulez, la teneur des conversations, en tout cas la teneur officielle, c'est l'obsession sécuritaire, la lutte contre le fléau djihadiste, la prévention de flux migratoires incontrôlés, etc., etc. Et c'est précisément le discours que, dans son entreprise de réhabilitation, Kadhafi a adopté pour séduire ses interlocuteurs. Et au passage, Kadhafi n'est pas quelqu'un qui ne reçoit que Sarkozy. Tout le monde défile. Tony Blair, avec un zèle assez troublant, Gerhard Schröder, ce qui nous étonnera moins, Berlusconi, même topo, mais également William Burns, secrétaire d'État adjoint américain. Donc, alors, ce qui est, par rapport à la relation avec Sarkozy, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez le verbatim d'un message de félicitations qu'ils échangent après l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, c'est vraiment un festival de salam aleik absolument invraisemblable. Quelle chance votre pays a d'avoir un leader tel que vous. Ce que dit Kadhafi à son entourage, et ça je l'ai vérifié auprès de son cousin et confident qui vit maintenant au Caire, en Égypte, et avec qui j'ai conversé deux jours de suite. Ce que dit Kadhafi, il dit « Nous avons besoin à l'Élysée d'un ami et d'un allié qui facilite justement notre réintégration dans le concert des nations et surtout qui nous laisse opérer en Afrique comme on l'entend, sans interférence. »
Lorsque Nicolas Sarkozy lance sa campagne militaire contre Kadhafi, le dictateur libyen avait publiquement menacé de dévoiler un grave secret compromettant pour le président français, je cite le communiqué de l'époque, un grave secret qui va entraîner la chute de Sarkozy, voire son jugement en lien avec le financement de sa campagne électorale. Là, on est dans le bluff ou on est dedans et on comprend ce qui se passe en justice aujourd'hui.
Anecdote personnelle. Lorsque je sens que le régime libyen vit ses derniers instants, donc j'essaie évidemment de rallier Tripoli, très compliqué, et je recours, même si j'y rechigne d'ordinaire, à un piston qui s'appelle Saif al-Islam, son fils, et héritier présomptif, etc., que j'avais rencontré quelques années auparavant dans sa bonbonnière mauresque à une quarantaine de kilomètres de Tripoli. Et il me donne en quelque sorte les clés du sauf-conduit via son bras droit, qui s'appelle Mohamed Ismail. Lorsque j'arrive à Tripoli, je reprends contact avec le dit Mohamed Ismail, et il commence à me poser des questions extrêmement précises, puisque je travaillais pour l'Express à l'époque. Quel est le jour de sortie du journal? Quelle est sa diffusion? Est-ce que vous avez un site web actualisé en temps réel, etc., etc. Parce qu'il me dit, j'ai des documents, est-ce que vous aurez la liberté de les publier? Je dis, ça m'étonnerait qu'on m'en empêche, sous bénéfice d'inventaire, évidemment. Et alors, donc, je me dis, s'il y a un moment dans l'histoire où les Kadhafi père et fils ont intérêt à donner les preuves de la trahison Sarkozy et du pacte de corruption, dont on reparle en justice aujourd'hui, c'est là. Et à ma grande stupéfaction, quand je reprends contact avec lui pour obtenir les documents en question, plus rien, il ne répond plus au téléphone, sa boîte est saturée, je vais jusqu'à sa chambre d'hôtel Rixos, où étaient beaucoup de dignitaires libyens à l'époque, il n'y est plus, et tout ça disparaît dans la stratosphère.
Eh bien, c'est une histoire nébuleuse qui reste tout aussi nébuleuse avec ces informations, mais c'est assez instructif. C'est un chanteur qu'on n'entend pas assez, je vais vous dire dans Zoom Zoom Zen. C'est en tout cas ce que me disait hier Manon Mariani. On se retrouve après l'escope, tiens, l'hiver sur tes lèvres.
Je sentais l'hiver sur tes lèvres à chaque fois que je t'embrassais. Moi, je rêvais sur la crève, mais la mer. Partir comme un secret. Je vivais toujours dans.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
On est toujours en 2011 dans Zoom Zoom Back, l'année des dernières fois pour Mouammar Kadhafi, mais aussi des premières fois pour d'autres, Manon Mariani.
Au printemps 2011, trois étudiants américains de la prestigieuse université de Stanford ont une idée d'application qui va révolutionner les réseaux sociaux. Et ils en sont certains, ça va cartonner. Et il faut les prendre au sérieux, car 7 ans avant, la même chose est arrivée du côté d'Harvard, dans la tête d'un certain Mark Zuckerberg qui a lancé son fameux Facebook. C'est donc en s'inspirant en partie de ce succès que Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown, la jeune vingtaine, vont lancer leur application appelée Peekaboo. Elle a un concept bien spécifique, les utilisateurs ne peuvent que s'envoyer des photos éphémères, 10 secondes de visionnage et boum, elles s'effacent comme si elles n'avaient jamais existé. Les trois étudiants sont partis du constat que tout restait à jamais sur Internet et qu'ils n'avaient pas forcément envie que leurs photos de soirées alcoolisées viennent les hanter des années plus tard. Sur le papier, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne idée, mais Peekaboo fait un flop. Le nom n'est pas assez accrocheur. C'est pour ça que quelques mois après, ils décident de renommer Peekaboo en Snapchat. Le nom est plus parlant, Snap signifie éclair, le logo est un petit fantôme, et ça suffit pour commencer à attirer les utilisateurs intrigués par ce concept. D'autant plus que Snapchat arrive dans un climat particulier aux États-Unis, car au même moment éclate l'affaire Anthony Weiner.
Anthony Weiner's alleged teen sexting scandal now getting the attention of federal prosecutors.
Cet élu démocrate est le favori pour devenir le futur maire de New York, sauf qu'en 2011, il est pris la main dans le sac après avoir envoyé des nudes sur Twitter à des jeunes femmes. À l'époque, c'est assez inédit ce genre d'histoire et ça a créé un véritable scandale. Bon, malgré la médiatisation de l'affaire, il va continuer à échanger des sextos avec une mineure et il sera condamné à 21 mois de prison.
Et ça, ça va donc aider Snapchat ?
Oui, et heureusement, pas que dans le mauvais sens, car Snapchat n'attire pas que des pervers en recherche de nudes. L'application commence surtout à cartonner du côté des jeunes. La majorité des utilisateurs a entre 13 et 24 ans. Et c'est une cible de choix, car ce sont eux les plus connectés, ce sont donc grâce à eux que l'entreprise espère gagner de l'argent avec de la publicité. Et c'est à partir de début 2012 que Snap connaît une ascension fulgurante. En un an, plus de 20 millions de photos sont partagées chaque jour sur l'application. Au même moment, Evan Spiegel et Bobby Murphy se débarrassent de leur troisième acolyte avec qui ils sont en désaccord. Et plus rien ne les arrête. Ils ajoutent une option vidéo et l'année suivante, il crée le concept des stories qui va être pris partout ensuite. Et oui, d'ailleurs, la même année, Mark Zuckerberg leur propose 3 milliards de dollars pour acheter Snapchat. Lui, il vient toujours de racheter Instagram et il veut posséder toutes les applications qui pourraient le concurrencer. Facebook est déjà en légère perte de vitesse chez les jeunes et il veut donc trouver un moyen de se les remettre dans la poche.
Moi, je le dis, 3 milliards, j'aurais accepté.
C'est pas mal. Hein.
Mais c'est pas ce qui va se passer ?
Eh ben non, Spiegel et Murphy refusent le deal. Et ça les propulse encore plus au sommet. Imaginez, les deux hommes qui ont dit non à l'un des plus gros entrepreneurs de la tech mondiale, forcément, c'est osé. Et ils ont bien fait, car en 2015, Snapchat est au sommet. 6 milliards de vidéos par jour sont partagées sur l'application. Spiegel fait partie des personnalités de l'année de Forbes. Les filtres chats cartonnent dans le monde entier, on s'en rappelle. Les influenceurs se mettent tous aussi sur Snapchat, les Kardashians notamment. En 2017, Snapchat rentre en bourse. Mais, sous ses apparences fun, Snapchat est aussi devenu l'un des lieux les plus toxiques en matière de réseaux sociaux. Car forcément, modérer une plateforme au contenu éphémère, c'est très compliqué. C'est par exemple là-bas que les dealers vendent de la drogue, notamment aux plus jeunes. Il y a aussi beaucoup de cas de partage de nudes non sollicités, mais aussi de revenge porn, en particulier pour les jeunes femmes qui en sont les principales victimes. Le fait que les photos ne restent pas est aussi ce qui en fait la dangerosité de l'application. Ça donne l'impression que rien n'est traçable et qu'il est possible de tout y faire sans conséquence. Comme si le concept qui a fait le succès de Snap se retourner contre elle. Éphémère ou pas, Internet n'oublie jamais. Malgré tout, Snapchat reste l'une des applications les plus utilisées par les jeunes aujourd'hui. Elle ne faiblit pas. 432 millions d'utilisateurs l'ont utilisée quotidiennement en 2024.
Merci Manon. Et donc, Kadhafi n'aura pas connu les filtres chats.
Et non.
Et ça, à mon avis, ça restera un de ses plus grands regrets. Zoom Zoom Back spécial 2011, la chute de Kadhafi. On est avec le journaliste spécialiste de l'Afrique, Vincent Hugeux, auteur de la biographie disponible en poche, qui s'appelle tout simplement Kadhafi. C'est disponible aux éditions Tempus. Exactement. Vincent, pourquoi les États-Unis, ils ont soutenu que timidement cette campagne militaire en Libye ?
Alors, timidement...
Vous ne diriez pas ça ?
Non, je n'irai pas jusque-là. Très franchement, c'est Londres et Paris qui, en tout cas, prennent le lead de cette opération militaire, mais sans le soutien logistique des États-Unis, en termes de raids aériens, en termes d'armement, etc., ils n'auraient pas eu l'efficacité qu'on a connue. Donc, simplement, les États-Unis sont prudents. Ils ont, eux aussi, misé sur une conversion de Kadhafi. Ils ont cru pouvoir compter sur ladite conversion pour faire en sorte que le combat contre le djihadisme soit plus performant, plus efficace. Et donc, ils vont un peu, aussi, il faut le dire, laisser Paris et Londres, à un moindre degré, se débrouiller du chaos terrible dans lequel plonge la Libye dans la foulée.
Quentin ?
Quel rôle BHL, donc Bernard-Henri Lévy, a joué dans l'intervention de la France en Libye ?
Là encore, je pense que son rôle a été crucial. Je crois qu'il a emporté la décision, Nicolas Sarkozy a bien compris l'intérêt qui était le sien pour effacer à la fois les palinodies de la France officielle par rapport aux printemps arabes. On avait quand même beaucoup de retard à l'allumage sur la Tunisie, etc. Bon, donc c'était une manière, en fait, de faire de la France le fer de lance du printemps arabe. Et c'était aussi, évidemment, un moyen idéal de faire oublier ses propres turpitudes avec Kadhafi, financières et politiques. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il n'est pas exagéré de considérer que le poids de BHL a encore une fois été supérieur à celui de la diplomatie à ce moment-là.
Il s'en est passé décidément des choses en 2011. J'ai par exemple conçu mon premier enfant cette année-là, le saviez-vous ? Ah, vous vous coucherez moins bête. Et en musique aussi, c'est passé deux, trois trucs. Ah. Et pas que.
Sur quelle musique ?
Je n'étais rien.
C'est là-dessus que je l'ai conçu. C'est ça que vous vouliez savoir ? Évidemment, mais moi je suis un grand romantique, vous savez. Pour nous en parler.
Mathieu.
Pas à l'époque.
Alors vous vous souviendrez de ça lundi prochain, pour le prochain quiz, que vous démarrez avec 6 points de pénalité. Pour nous parler musique en 2011, accueillons chaleureusement une petite nouvelle dans la bande qui a décidé d'appeler sa rubrique Rétro-Pop. Alors je dis pourquoi pas, moi j'avais l'idée Pop, ça sonnait bien. Camille Yao, bonjour.
Salut Mathieu.
Chaque semaine dans Rétro-Pop, vous allez passer l'année au prisme de la pop musique et aujourd'hui ça commence fort avec un des tubes de l'été 2011.
Oui, été 2011, pendant que vous étiez en train de concevoir votre premier enfant Mathieu, moi j'étais au tout début de mes études, j'avais tout juste 20 ans et comme tous les jeunes de 20 ans, je me déhanchais sur un air de reggae. Est-ce que vous l'avez ?
Ah bah,
bien sûr,
tout le monde l'a ?
Bien sûr.
Bah allez-y.
Rihanna,
évidemment. Man Down, le tube de l'été 2011. Et il faut savoir, un tournant pour la pop star qui, après les chansons d'amour, après les hymnes à la fête, a désormais grandi. Et pour la première fois, avec Man Down, elle livre une chanson au sous-texte très politique. Man Down, c'est un homme à terre. Je viens d'abattre un homme, chante Rihanna. Et le clip qui va avec commence justement ainsi. Un coup de feu, en plein jour, au milieu de la foule, un homme tombe. Rihanna range son arme et se met à chanter. Why did I pull the trigger? Mais pourquoi ai-je appuyé sur la gâchette?
Mais c'est vraiment une très bonne question. Pourquoi Rihanna a-t-elle tiré?
Eh bien, pour le savoir, Mathieu, il faut rembobiner. La veille du drame. Une chaude journée d'été, Rihanna est à vélo sous le soleil et le soir venu, elle décide d'aller en club, elle a envie de danser. Sur le dance floor, elle rencontre un homme qui se montre un petit peu trop pressant. Elle le repousse, elle décide de quitter le club, mais dans la nuit, il la suit, il la rattrape et il la viole. Le lendemain, elle le tue. Alors nous sommes, souvenez-vous, à l'été 2011. Le viol, c'est un sujet dont on ne parle pas. Il y a bien quelques frémissements dans le débat public. 2011, c'est l'année de l'affaire DSK, on en parlait tout à l'heure avec Quentin. C'est l'année aussi où la polémique commence à enfler autour de Roman Polanski, célébré au Festival de Cannes, malgré les accusations de viol dont il fait l'objet. Il n'empêche que 6 ans avant MeToo, cette vengeance féminine sanglante imaginée par Rihanna détonne et lui vaut immédiatement un tollé conservateur. Des associations dénoncent une exécution froide, un message dangereux pour la jeunesse, en passant bizarrement sous silence, qui est quand même le cœur de son message avec cette chanson, la dénonciation du viol. En interview, Rihanna persiste et signe, je la cite, « Le viol se produit partout, mais nous continuons à le couvrir et à prétendre qu'il n'existe pas. » Alors dans la bouche d'une pop star comme Rihanna en 2011, c'est un discours qui est fort, voire radical.
Est-ce qu'on peut dire que Rihanna fait figure de pionnière ?
Effectivement, elle fait partie des pionnières, en tout cas à ce niveau de notoriété. Et 2 ans plus tôt, elle témoignait déjà publiquement de la violence de son ex-compagnon, le chanteur Chris Brown.
This happened to me.
there are a lot of women who've experienced what I did.
Traduction en substance, moi aussi, me too. Quelques mots pour briser le silence autour des violences conjugales, montrer qu'elles existent dans tous les milieux, hein, même chez les stars. Et Rihanna devient immédiatement une héroïne pour de nombreuses femmes, elles aussi victimes de violences. Finalement, Men Down en 2011, c'est un peu la suite logique de ce premier témoignage, une prolongation en chanson. Pour elle, elle souhaite en musique amplifier la voix des victimes, comme peut-être en 2011, cette voix-là.
I was like, stop this. But he won't say nothing. He keep pushing me. I was so afraid. I was so scared.
Nafissa Toudialo, la femme de chambre qui a dénoncé Dominique Strauss-Kahn. En 2011, donc, Me Too n'est encore qu'en gestation, mais Rihanna, en grande pop star, flaire et préfigure la grande vague féministe à venir. Bref, Man Down, c'est bien plus qu'un simple tube de l'été.
Mais merci pour cet éclairage, Camille Diao. Lui aussi, en 2011, il a dansé sur Rihanna, sur le dance floor de la boîte de nuit la plus select de Genève, By Night, baptisé le Platinium,
évidemment,
comme la carte qu'il possède aujourd'hui, parce que ça marche pour lui dans le game de l'humour. Bonjour Charles Nouveau, et bonne année.
Bonjour Mathieu Noël, bonne année. Je vous le redirai peut-être même la semaine prochaine, comme ça vous êtes bien convaincu que je vous veux du bien. Bonne année et merci.
Merci pour quoi ?
De me proposer de revenir et de me donner ainsi ma première vraie raison de prendre ma première douche depuis le 24 décembre.
Oh. Votre première douche ? Mais vous êtes le Suisse le plus sale qui existe.
Le pire.
Camille Diao, je reviens vers vous pour finir, puisqu'on va écouter Man Down maintenant. On en a tellement parlé, on a envie de l'écouter sur la longueur. Vous avez une petite info bonus pour vous. C'est pas seulement une chanson engagée.
Oui, c'est aussi musicalement un retour aux sources pour Rihanna qui vient de la Barbade, petite île des Caraïbes, pas si loin de la Jamaïque où on écoute beaucoup de reggae. Elle avait envie de se lancer dans le reggae et si vous tendez bien l'oreille vers la fin du morceau, pour la première fois elle assume son accent caribéen quand elle fait pull the trigger. Ça c'est une sorte de créole barbadien et c'est une façon pour Rihanna d'affirmer haut et fort d'où elle vient.
Rihanna, Man Down, c'est maintenant sur Inter. I didn't mean to end this life, I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight for I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum.
Playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son, and I took his heart with. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, rum, pa pa pum, rum, pa pa pum, rum.
bum rum, papa bum rum, papa bum, and me went downtown. Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me now. Oh, mama, 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 I just shot a man down in Central Station.
La chute des régimes, les politiques totalitaires, la diplomatie multilatérale, ce sont des choses que l'Université de Genève prétend avoir enseignées à Charles Nouveau. On va parler Kadhafi avec lui. Rebonjour Charles.
Alors je ne suis pas expert, mais comme dirait Elisabeth Borne, les gens ne s'attendent pas forcément à ce que je sois spécialiste. Kadhafi donc, qui avant de devenir le principal absent du procès de l'année, était dictateur, figurez-vous. Un métier manifestement à risque, d'après ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Tous les pays n'ont pas le même rapport au dictateur. La France, c'est le pays des droits de l'homme. En plus d'avoir un lourd passé colonial, la France, elle est complexe, elle est plurielle. Donc, en France, toute interaction avec un dictateur va forcément susciter de la polémique. Tu ne peux pas lâcher une petite légion d'honneur ou organiser un camping despotique dans le jardin de l'hôtel Marigny sans que la population se mette à gueuler. En Suisse, de notre côté, historiquement, on a eu un rapport plus apaisé avec les dictatures sous toutes leurs déclinaisons. Hein. Moi, j'ai des potes qui étaient à l'école avec des enfants dont les parents ont fui des dictatures. Et moi, de mon côté, j'étais à l'école avec des enfants dont les parents étaient dictateurs. On a vraiment les deux. C'est aussi ça, le vivre ensemble. Petit, Mathieu Noël faisait de l'escrime avec le fils Mobutu. Hein, ça, c'est de notoriété publique. C'est même pas des enfants de dictateurs. C'est des expats, en fait. Hein. On ne discrimine pas. En Suisse, avant d'être un réfugié ou un dictateur, vous êtes avant tout un patrimoine. Des patrimoines qui longtemps ont eu besoin d'un foyer. L'argent des dictatures notamment, ils se sont pas en sécurité. C'est normal, le pauvre, il habite dans une dictature. Il veut venir en Europe, il a traversé la Méditerranée, parfois enfermé dans des valises. Horrible. Comme un vulgaire PDG de groupe automobile. Il a peur, il a froid, il a besoin que quelqu'un le protège, que quelqu'un le respecte et peut-être même que quelqu'un le sublime. Nous n'avons jamais été un paradis fiscal, Mathieu Noël. Nous étions un gîte de montagne, un PEL d'altitude, un spa pour le flouze où on ne jugeait personne, on respectait la vie privée des capitaux. Seulement voilà, comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Avant même la fin du secret bancaire en 2009 et bien sûr la chute du régime libyen en 2011, 2008, grosse embrouille entre la Suisse et la Libye. Souvenez-vous, Mathieu Noël. En même temps, vous connaissez la Suisse, on est aussi un peuple qui aime le conflit. 2008, l'un des fils de Kadhafi, le pacifiquement nommé Hannibal, est arrêté dans un palace à Genève pour avoir maltraité ses domestiques. Et les gens la jugent alors que la plupart n'ont même pas de domestiques. Le problème, c'est qu'Hannibal, il a un passeport diplomatique, hein, qui est l'équivalent papier de l'étoile de Mario. Donc sa détention est un scandale. En plus, sa femme enceinte jusqu'aux yeux fait un malaise. Kadhafi pète un câble, il veut des excuses officielles, il stoppe l'exportation de pétrole vers la Suisse, il retire les capitaux libyens, il fait arrêter deux hommes d'affaires suisses en Libye. Il appelle au djihad aussi, ça j'avais oublié. Il va même à l'ONU faire une requête pour que la Suisse soit démantelée, partagée entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Le plus grave étant bien sûr qu'au moment où je vous dis ça, certains des auditeurs et des personnes autour de la table sont en train de se dire pourquoi pas géographiquement. Ça a du sens. Énorme crise diplomatique. D'ailleurs, l'Express, où notre invité travaillait, était à l'époque surpris que la France n'apporte pas plus son soutien à la Suisse. Je ne sais pas s'il se demande encore pourquoi. On en revient au lien entre la France et la Libye de l'époque et donc au procès historique qui a lieu en ce moment, parce que c'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président aurait quelque chose à se reprocher. Pardon, non, c'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président est jugé pour corruption, voilà. Peut-être pas la dernière, hein, qui sait, ne sous-estimons pas la Ve République. J'en ai peu dit sur Sarkozy, mais il y a dû avoir 20 ans de blagues sur Sarkozy sur France Inter, dont moins de la moitié sur sa taille, hein, bravo. J'ai demandé à Quentin d'aller me chercher des extraits aux archives de l'INA. J'attends toujours une réponse, voilà, solidarité verticale, certainement, mais je me mets à la place des Français qui en peuvent plus des affaires judiciaires impliquant leurs élus et qui doivent vouloir que la justice, leur justice, les regarde droit dans les yeux et leur dise
« Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. »
Merci Charles Nouveau, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom. Vous avez très très bien parlé de notre beau pays qu'est la Suisse. Vincent Hugeux, vous nous disiez à l'antenne tout à l'heure dans cette affaire Sarkozy, et il manque le smoking gun pour attester de ce pacte de corruption.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on entend le patron du PNF, le parquet national financier, donc celui qui a requis la traduction en justice de Nicolas Sarkozy et de ses 11 acolytes, dont 3 ministres, il dit lui-même: pour qu'il y ait pacte de corruption, il suffit qu'il y ait promesse de financement. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé une trace physique, puisque tout ça a très vraisemblablement circulé en cash, en mallette, en liasse de billets, eh bien ne suffit pas en quelque sorte à exonérer Sarkozy de sa responsabilité. Même chose évidemment pour son entourage.
Je rappelle, votre portrait de Kadhafi, Vincent Hugeux, c'est en poche maintenant chez Tempus. Merci à tous les amis. Merci à vous Vincent bien sûr, merci Manon, Camille, Quentin, Charles. Merci également à tous ceux qui nous aident à préparer cette émission. Florence Gimalac, Alexia Lacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Gérald Arnaud et Lola Auvert qui nous disait à l'issue de sa première semaine de stage: je ne sais pas si je vais apprendre grand chose avec vous, mais au moins j'aurais découvert le meilleur Libanais du 16e. Des propos qui me font chaud au cœur, moi qui ai toujours eu l'âme d'un pygmalion. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Julien Dumont. Lundi, Zoom Zoom vous donne rendez-vous dès 16h pour zoomer sur le réensauvagement quand on laisse enfin la nature reprendre ses droits. Fini, Body Minute. Zoom Zoom Zen.